Every day. Anywhere. Anytime. The Digital Gospel Channel. Ebenezer International. Your station.
C'est l'heure de l'émission Flash sur la Bible.
Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, messieurs, bonjour et merci d'être présents à ce nouveau rendez-vous autour de la Bible, les Saintes Écritures. C'est bien l'émission Flash sur la Bible qui est de retour avec au micro, comme vous le saviez déjà, votre serviteur et ami podcasteur Franck Touristil qui vous parle depuis son home studio basé en France métropolitaine dans le Val d'Oise. Ce m'est une grande joie de vous savoir à l'écoute de cette émission qui vous permet de jour en jour d'avancer dans votre connaissance des Saintes Écritures, la Bible, cette merveilleuse bibliothèque que le Seigneur met à la disposition de ceux qui veulent découvrir sa volonté pour leur vie. Comme d'habitude, notre programme sera divisé en deux parties. La toute première nous permettra d'étudier les deux lettres de Paul aux Thessaloniciens, et dans la deuxième partie, nous aurons une étude spéciale autour des livres inspirés et les livres apocryphes. Vous en avez sans doute déjà entendu parler. Ce programme vous permettra de voir plus clair dans cette question que se posent beaucoup de personnes. Pourquoi dans certaines versions de la Bible, on trouve 66 livres alors que dans d'autres, on en trouve un peu plus? À la deuxième partie de l'émission, vous trouverez la réponse à cette importante question. Gardez l'écoute.
Hello and thank you so much for joining us today on the Digital Gospel Channel for Christian programming to feed your spirit. My name is Frank Dury, still your host for this first episode of Flash on the Bible for this new year, 2013. I pray you will be mightily blessed for your time with us today. And be sure to tell all your friends and relatives to join us at www.radioeben-israelinternational.com or in our podcast site www.frankradio.podomatic.com. Staying there as you listen to this first song selected for your pleasure with the artist Christophe Rabhi, car il existe. Vous écoutez l'émission Flash sur la Bible. Avant d'accueillir nos intervenants pour l'étude de ce jour, écoutons l'artiste Christophe Rabhi dans ce morceau qui vous fera sans doute beaucoup de plaisir, car il existe. Flash sur la Bible.
Au plus profond de mes détresses, quand mon cœur part à la dérive, qu'il me rappelle toutes mes faiblesses, tu me rappelles qui je suis. Vois ma misère et vois ma peine, l'obscurité de mes pensées. Libère ma vie de toutes ces chaînes et scelle en moi ta vérité, car il existe un endroit.
Chérie,
flash sur la Bible, votre émission.
Quand la lumière vient à briller, quand mes yeux ne voient plus que toi, Jésus mon roi, je suis bien à te contempler. Ta présence ranime ma foi.
Cédons maintenant l'antenne à nos amis de Bible ouverte pour la première étude du jour.
Les deux épîtres de Paul aux Thessaloniciens. À son extrémité nord-ouest, la mer Égée s'enfonce profondément dans la péninsule balkanique. Là se trouve le port grec de Salonique, où les touristes visitent aujourd'hui les ruines de l'ancienne cité de Thessalonique. L'apôtre s'y est arrêté lors de son deuxième voyage missionnaire. Nous lisons Actes 17, 1 à 4.
Paul et Silas arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra selon sa coutume. Pendant trois sabbats, il discuta avec eux d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité.
De nombreux Thessaloniciens accueillent donc avec empressement le message de Paul. Mais immédiatement, ils doivent faire face à l'opposition. Jason, qui a reçu les apôtres, est traîné devant les magistrats, et Paul quitte précipitamment la ville sur le conseil des croyants. Mais il laisse derrière lui une église solidement fondée qui deviendra pour lui un constant sujet de joie. Plusieurs mois s'écoulent. Les deux compagnons de voyage de Paul, Silas et Timothée, le rejoignent alors à Corinthe, Actes 18, 5, lui apportant d'encourageantes nouvelles de l'église naissante à Thessalonique. L'apôtre en est grandement réjoui, ce qui ressort à diverses reprises dans la lettre qu'il écrit alors à ses jeunes convertis. Cette lettre est la première épître que Paul rédige, et sur le plan chronologique, fort probablement l'un des premiers écrits du Nouveau Testament. Elle est suivie, quelques mois plus tard, d'un second message, également écrit de Corinthe, ce qui nous conduit, dans ce survol des livres de la Bible, à considérer les deux épîtres ensemble. Une note de victoire et d'espérance prophétique pénètre ces huit chapitres. Nous allons essayer de le découvrir ensemble. Premier épître, chapitre 1. L'apôtre rend grâce à Dieu parce que les croyants de Thessalonique sont devenus un modèle pour les croyants des autres provinces de la Grèce. Versets 9 et 10.
car on raconte comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils. »
Ce thème est repris au chapitre 2, versets 11 et 12, où Paul exhorte les croyants
à marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire.
Et c'est ainsi que les exhortations de l'apôtre convergent vers la glorieuse perspective de l'avènement de Christ, ce qui réapparaît au chapitre 3, verset 13.
« Qu'il affermisse vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. »
Au chapitre 4, les instructions de l'apôtre portent sur la marche chrétienne, la sanctification, l'amour fraternel, le travail honnête. Mais quel est l'aboutissement de toutes ces choses? Les croyants regardent à Christ qui, lorsque la trompette retentira, reviendra pour la délivrance de ses rachetés. C'est l'un des passages les plus transcendants de ces deux épîtres aux Thessaloniciens.
Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur.
1 Thessaloniciens 4, 14 à 17. Ce passage projette sur l'avenir de l'Église universelle de Jésus-Christ un faisceau lumineux dont l'éclat peut pénétrer aujourd'hui dans de sombres cachots où gémissent des enfants de Dieu emprisonnés pour leur foi, dans des camps de concentration ou dans des asiles psychiatriques où des chrétiens subissent d'ignobles tortures. D'innombrables croyants cloués sur un lit de souffrance depuis des années ou plongés dans la douleur morale et dans le deuil ont pour seul espoir la perspective glorieuse de l'enlèvement de l'Église. Car l'espérance des rachetés n'est pas un vain mot. Ceux qui professent appartenir au christianisme ne feront hélas pas tous partie du cortège céleste enlevé à la rencontre du Seigneur. Seuls ceux qui sont sauvés par le sang expiatoire de Christ et scellés de son Saint-Esprit, en un mot, seuls ceux qui sont nés de nouveau recevront alors un corps céleste. D'abord, la multitude des rachetés des âges passés ressusciteront. Leurs âmes, qui attendaient auprès du Seigneur, recevront à cet instant-là leur corps de résurrection. Quant aux vivants, ils seront instantanément transformés pour partir à la rencontre de leur chef et maître. Quelle extraordinaire démonstration de puissance et de victoire du ciel sur l'enfer! L'enlèvement de l'Église sera la plus probante des prédications, car les places vides laissées par les sauvés attesteront aux habitants de notre planète demeurés ici-bas à la fois le bien fondé de l'espérance chrétienne et l'imminence du jugement divin sur les incrédules. Faites-vous partie de l'Église universelle de Jésus-Christ qui sera enlevée à sa rencontre? Serez-vous du nombre de ceux qui, dès lors, vivront toujours avec le Seigneur? Ou bien, faites-vous encore partie de la foule des gens qui, tout en étant bien disposés à l'égard de Dieu, ont remis à plus tard la décision la plus importante de leur vie? Une petite fille passait devant l'église de son village à l'heure de midi. L'horloge, déréglée, sonna plus de 12 coups. Bouleversée, la fillette courut à la maison et s'écria, encore tout essoufflée, « Maman, il est plus tard que jamais !» Ce mot d'enfant exprime une profonde vérité. Jamais le monde n'a été exposé à de si graves périls. Jamais les menaces du jugement universel n'ont été si précises. Oui, il est plus tard que jamais. ne remettez donc pas à demain la décision que vous pouvez prendre en cet instant. Mettez-vous en règle avec Dieu. Repentez-vous de votre péché et acceptez Christ comme votre sauveur personnel. N'attendez pas, il est plus tard que jamais. Reprenons maintenant le fil de notre analyse. Après 1 Thessaloniciens 4, 1 Thessaloniciens 5, Paul y dénonce la coupable indifférence d'un monde plongé dans une paix illusoire.
Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra.
En contraste, il ajoute, s'adressant cette fois aux enfants de Dieu,
« Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. »
1 Thessaloniciens 5, 3 à 5. Et cette première épître se termine sur l'exhortation suivante.
« Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. »
1 Thessaloniciens 5, 23. Cette première épître de Paul a vivement encouragé les Thessaloniciens. Ils se préparaient donc au glorieux retour de Christ sur la terre. Mais certains d'entre eux dépassèrent la pensée de l'apôtre en prétendant que ce retour était déjà arrivé. Aussi Paul a-t-il adressé aux chrétiens de Thessalonique une deuxième lettre. À nouveau, il traite du retour de Christ, mais dans un cadre élargi cette fois. Il faut que les chrétiens comprennent que l'enlèvement de l'Église sera le prélude d'événements bouleversants pour l'humanité entière. Après cet enlèvement, l'Antéchrist, l'adversaire de Dieu, imposera sa dictature universelle. Ensuite, Jésus-Christ reviendra avec les siens, terrassera l'Antéchrist par le souffle de sa bouche, chapitre 2, verset 8, et établira son règne ici-bas. L'enseignement prophétique de la deuxième épître est donc complémentaire à celui de la première. À titre d'exemple, au chapitre 1er, versets 7 à 8, Paul parle du Seigneur Jésus qui
« apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu. »
Au chapitre 2, il précise que l'Antéchrist séduira les hommes par le mensonge et les faux miracles. L'imposteur s'arrogera les droits appartenant à Christ. Il imposera sa contrefaçon diabolique du règne messianique.
L'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire, s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu.
Or, aujourd'hui déjà, l'Antéchrist prépare sa venue. Car, comme le dit le verset 7 de ce chapitre, le mystère de l'iniquité agit déjà. Puis l'apôtre rappelle aux Thessaloniciens leur vocation.
Dieu vous a appelés par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes.
2 Thessaloniciens 2, 14 à 15. Et plus loin,
le Seigneur est fidèle. Il vous affermira et vous préservera du malin.
2 Thessaloniciens 3, 3. Si l'esprit de l'Antéchrist agit déjà dans notre monde corrompu, Dieu est fidèle. Il veut préserver les croyants du malin, c'est-à-dire les protéger des attaques du diable. Et un jour, bientôt, il les accueillera dans sa gloire. Chrétiens, ne vous laissez pas attirer par une vie facile loin de Christ, ni ébranler dans votre foi. Discernez les esprits séducteurs et les ruses du diable. Conservez une confiance intacte dans le message intégral de la Bible. Le Seigneur Jésus a besoin de vies entièrement données, de combattants prêts à affronter l'opposition, de témoins consacrés 100% à sa cause. Il est plus tard que jamais.
Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres.
1 Thessaloniciens 5, 1, 2 et 6. Oui, le jour du Seigneur est proche. Serez-vous prêts?
Pendant que vous réfléchissez sur votre réponse personnelle, écoutons Danny et Moïse Urtrel dans ce beau morceau intitulé « Ici ». Bonne mission.
ne sais pas pourquoi je suis né un beau jour. Ce n'est pas moi qui ai choisi. Que je sois le fruit du hasard ou de l'amour, ce qui est sûr c'est que je suis ici. Ici, sur cette terre où c'est souvent la loi du plus fort. Ici, sur cette terre où si tu ne vas pas, t'es déjà mort. Ici, sur cette terre où règne la peur et la misère. Ici où l'on n'entend parler que de guerre. Ici, sur cette terre. Je ne me suis pas posé 100 000 questions. D'ailleurs, je n'avais pas envie de faire comme tant d'autres qui tournent en rond. Et j'ai décidé de vivre ma vie. Ici, sur cette terre, libre et heureux sans penser à rien. Ici, sur cette terre, sans m'occuper de mes lendemains. Cette terre, j'ai essayé de croire, mais en vain, que ma vie n'était qu'un passage éphémère, ici, sur cette terre. Quand j'ai compris que c'était pour l'éternité, qu'un jour j'avais reçu la vie, et que c'était à moi de décider où aller, croyez-moi, j'ai choisi le paradis. Aller avec lui, là-haut au paradis. Là-haut au paradis, de ma place, il a payé le prix. Pour qu'un beau jour, je puisse aller avec lui. Là-haut au paradis, là-haut au paradis, là-haut au paradis.
Là-haut au paradis, c'est bien la destination de ceux et de celles qui ont mis en Jésus-Christ leur confiance. C'est bien ce que nous enseigne la Bible, la parole de Dieu. Vient maintenant le moment de céder l'antenne à nos amis de Bible ouverte pour la deuxième partie de l'émission. Bonne écoute à toutes et à tous.
Les livres inspirés et les livres apocryphes.
En diverses éditions de la Bible, on trouve quelques livres supplémentaires qui apparaissent comme associés aux écrits de l'Ancien Testament. Ce sont 1er et 2e Esdras, appelés parfois 3e et 4e Esdras, 2e Esther, Tobie, Judith, Baruch, la Sagesse, l'Ecclésiastique ou Livre du Siracide, 1er et 2e Maccabée. Et quelques textes plus courts, la prière de Manassé, la lettre de Jérémie, le cantique des trois enfants saints, l'histoire de Suzanne, Belle et le dragon, ces trois derniers étant parfois ajoutés au livre de Daniel. Ces écrits sont soit contemporains, soit postérieurs aux derniers prophètes de l'Ancien Testament. Il s'agit là d'une littérature juive assez variée, comprenant des chroniques historiques, des livres poétiques, des passages prophétiques et aussi certains fragments à caractère nettement fantaisiste ou légendaire. Leur valeur morale peut être reconnue, mais ils ne sont que le fruit de la sagesse et des pensées humaines et n'ont pas bénéficié de l'inspiration du Saint-Esprit. J'en veux pour preuve la conclusion du 2e livre des Maccabées.
Je finirai, moi aussi, mon ouvrage en cet endroit. Si la composition est bonne et réussie, c'est aussi ce que j'ai voulu. Si elle a peu de valeur et ne dépasse guère la médiocrité, c'est tout ce que j'ai pu faire. Car de même qu'il est nuisible de boire du vin pur ou de l'eau pure, alors que le vin mêlé à l'eau est une boisson agréable qui procure une délicieuse jouissance, de même c'est l'art de disposer le récit qui charme l'entendement de ceux qui lisent l'ouvrage. C'est donc ici que je m'arrête.
On le voit, dans leurs essais littéraires, les hommes les plus capables ne parviennent jamais au niveau de l'Écriture sainte. Les Israélites de l'époque ont d'emblée discerné que ces écrits ne procédaient pas de Dieu et ne les ont jamais assimilés aux Écritures saintes de l'Ancien Testament. Et, fait plus déterminant encore, le Seigneur Jésus et les apôtres se sont abstenus de toute allusion à ces livres dans le Nouveau Testament. Mais une question se pose. Comment se fait-il que ces livres non inspirés de Dieu paraissent aujourd'hui dans certaines éditions bibliques? Pour répondre à cette question, il nous faut remonter au IIIe siècle avant l'ère chrétienne. Ptolémée Philadelphe, roi d'Égypte, s'intéresse alors à la littérature de ses nombreux sujets israélites et ordonne la traduction en grec de tous leurs livres sacrés et profanes. 72 savants juifs sont donc chargés de traduire d'hébreu en grec les écrits de l'Ancien Testament auxquels ils ajoutent ces livres supplémentaires. Ainsi naît la version des Septante, cette version grecque de l'Ancien Testament qui se répandra très largement dans tout le bassin méditerranéen. Au IVe siècle de l'ère chrétienne, Jérôme, secrétaire de l'évêque de Rome, entreprend de traduire la Bible en latin. On l'a prié de traduire l'Ancien Testament à partir de la version des Septante. Mais Jérôme préfère remonter aux sources originelles hébraïques et se rend à Bethléem. Il y séjournera 19 ans et consultera des érudits juifs. Selon les ordres reçus, il traduit aussi ses livres malencontreusement incorporés à la version des Septante. Mais il prend soin de les introduire d'une note précisant leur caractère non inspiré. Il leur attribue alors le qualificatif d'apocryphe, ce qui signifie « écrit caché » ou « écrit ajouté », pour bien montrer qu'il s'agit d'une adjonction à la révélation divine. Pendant des siècles, les copistes ont incorporé les livres apocryphes à la Bible Vulgate latine de Jérôme. Le plus souvent, ils ont transcrit le fameux prologue Galaetus, cet avertissement de Jérôme au sujet des apocryphes. Jusqu'au XVIe siècle, l'Église romaine ne leur a reconnu aucune autorité divine. C'est après la Réforme que le Concile de Trente leur a conféré une qualité à laquelle ils n'ont jamais prétendu, leur attribuant une autorité identique et conjointe à celle des Saintes Écritures. Voilà pourquoi les Bibles éditées sous l'égide de l'Église catholique contiennent les livres apocryphes. Au XIXe siècle, diverses sociétés bibliques ont incorporé à leur statut un amendement leur interdisant d'éditer des Bibles avec apocryphes. De nos jours, cet amendement n'est plus respecté, puisque les versions écuméniques de la Bible ont réintégré les livres apocryphes entre les deux testaments, ce qui ne peut qu'accroître la confusion qui règne dans les esprits à leur sujet. Ajoutons qu'au début de l'ère chrétienne, des tentatives semblables ont eu pour objet le Nouveau Testament. Ainsi, on compte près d'une trentaine d'écrits apocryphes non inspirés, injustement attribués aux apôtres. Pourtant, Dieu avait solennellement averti les hommes de ne pas ajouter ni retrancher quoi que ce soit aux écrits sacrés.
Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris, et vous n'en retrancherez rien. Mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris.
Deutéronome chapitre 4, verset 2. Et tout à la fin de la Bible,
je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre.
Apocalypse, chapitre 22, versets 18 et 19. Malgré cet avertissement, les hommes ont cru bien faire en ajoutant leurs traditions religieuses aux Écritures. Et dès le XIXe siècle, le libéralisme théologique a soustrait aux textes sacrés d'importants passages et même des livres entiers. Qui dira le tort considérable causé à la chrétienté, d'une part par ceux qui ont ajouté à la vérité divine, obstruant ainsi le chemin d'accès à Dieu, d'autre part par ceux qui ont retranché une partie de la vérité, semant ainsi le doute et l'incrédulité dans les cœurs. Ces fauteurs de troubles sont les premiers responsables de la décadence du christianisme contemporain. Mais la parole de Dieu a été plus puissante que les hommes. J'aime l'emblème de l'enclume que les Huguenots du XVIIe siècle ont choisi pour illustrer le caractère invulnérable de l'Écriture sainte. On y voit des forgerons frappant de leur marteau sur cette enclume, mais leurs efforts sont vains, comme l'indique la devise « Plus à me frapper on s'amuse, tant plus de marteaux on y use ». Les bras qui maniaient ces marteaux se sont fatigués, et la Bible est sortie indemne de toutes les attaques et de toutes les persécutions subies au cours de l'histoire. Le Seigneur l'avait dit,
l'Écriture ne peut être anéantie.
Jean 10, 35. Et
le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point.
Matthieu 24, 35. Dieu s'est révélé. Il était logique qu'il se révèle. Il était nécessaire qu'il se révèle. Et cette révélation est une certitude absolue.
Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice.
2 Timothée 3, 16. L'Esprit de Dieu a transmis la parole de Dieu aux auteurs sacrés. Cet Esprit a agi sur l'esprit humain des écrivains à la manière du vent qui gonfle la voile d'un bateau. Ce qui a fait dire à l'apôtre Pierre,
ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu.
2 Pierre 1, 21. Dieu a choisi des hommes limités, faillibles, pour communiquer au monde son message transcendant, infaillible et inaltérable. Mais son Esprit a subjugué l'esprit de ces hommes, tant et si bien que leurs limitations propres n'ont jamais perturbé la révélation divine qui leur était confiée. Ils n'ont pas exécuté mécaniquement les ordres du Tout-Puissant, ils n'ont pas été des automates en transmettant son message, leur caractère et leur personnalité n'ont pas été neutralisés, au contraire, Dieu les a employés tels qu'ils étaient. Il les a conduits et subjugués. Quelle sécurité pour le croyant de savoir que Dieu lui-même a présidé à cette rédaction et que son souffle a préservé le texte de toute faiblesse ou inexactitude. Le caractère divin des Écritures a été abondamment prouvé à travers l'histoire. La Bible a engendré la vie divine partout sur son passage. Autrefois, elle a transformé des sociétés entières. Aujourd'hui, elle change encore radicalement des vies en leur apportant le salut éternel en Jésus-Christ.
Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins.
Ésaïe 55, 10 à 11. La Bible tout entière est inspirée de Dieu. Elle ne contient ni erreur, ni élément de faiblesse dans ses textes originaux, hébreux et grecs. Des doctrines de l'infaillibilité et de l'autorité des Écritures dépendent la sécurité et la puissance d'un christianisme vrai et authentique. Dans la mesure où notre foi repose sur le fondement inébranlable du « il est écrit », elle ne chancellera pas. Le Seigneur Jésus a dit
« Quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. »
Matthieu 7, 24 à 25. L'Écriture sainte est donc un roc inébranlable. Si votre foi repose sur ce roc, vous demeurerez ferme devant les éléments déchaînés quand l'adversaire des âmes s'attaquera à vous. À la croix, Jésus-Christ a tout accompli pour notre salut. Mais comment le saurions-nous sans la Bible, qui est pour nous la base de toute certitude ?
Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu.
1er épître de Jean, chapitre 5, verset 13. Maintenant que nous avons achevé ce survol des 66 livres inspirés, nous aimons à croire que la vie divine s'est communiquée à votre esprit, faisant naître dans votre cœur un double besoin, celui de poursuivre votre étude personnelle des Écritures et celui de mieux connaître Jésus-Christ, le Sauveur inséparable des Écritures.
The Song of the Redeemed avec l'artiste sud-africain Neville Lirwitz. Le chant de la personne libérée.
Forever I will sing this song of the redeemed, this song of freedom. I've been redeemed, and that is why I sing. I lift my hands to you. There's nothing you can do. My ransom paid, my debt erased, and that is why. And that is why I sing just to worship the King. I sing to the God. This song of freedom, I've been redeemed, and that is why I sing. Forever I will sing the song of the redeemed, the song of freedom. I've been redeemed, and that is. I lift my hands to you. There's nothing you can do. My ransom paid, my debt erased, and that is why. And that is why I sing just to worship the King. I sing. Some paid, my debt erased, and that is why. And that is why. And that.
My ransom paid, my debt erased, and that is why I écoutez Flash sur la Bible.
Ainsi que prend fin, chers auditeurs et auditrices, la première édition de Flash sur la Bible pour cette saison, qui nous a permis d'étudier ensemble, dans la première partie, les deux lettres de Paul aux Thessaloniciens, et dans la deuxième, la différence entre les livres inspirés et les livres apocryphes. Et si un jour quelqu'un vous poserait une question à ce sujet, je suis convaincu que vous aurez les réponses nécessaires à lui donner. Et si jamais le temps ne vous a pas permis de tout saisir, vous pouvez revenir sur notre site à n'importe quel moment pour écouter l'émission ou tout simplement la télécharger pour que vous puissiez l'écouter tranquillement quand l'occasion vous le permettra. Avant de partir, je remercie sincèrement l'équipe de Bible Ouverte pour sa collaboration avec la Radio Chrétienne Ebenezer Internationale. Et je vous rappelle que Bible Ouverte est un site de l'association Parole Certaine, soutenue par l'Association des Églises Action Biblique de Suisse. J'envoie un grand merci à tous les artistes qui nous ont bénis par leurs chants, tels que Christophe Rabhi, Danny et Moïse Urtrel, et l'artiste sud-africain Neville Didwix. À vous tous, fidèles auditeurs et auditrices, qui étiez branchés depuis le début de l'émission jusqu'à cette dernière minute, je vous remercie sincèrement de votre écoute et vous donne rendez-vous pour la prochaine édition de Flash sur la Bible. Et c'était pour vous servir, au micro et à la réalisation, votre ami podcasteur Franck Douistil, qui vous dit une fois de plus merci et compte vous retrouver pour une prochaine édition de Flash sur la Bible. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.
Vous venez d'écouter Flash sur la Bible, un programme de la RCEI en collaboration avec Bible Ouverte.
Que ma vie n'était qu'un passage éphémère, ici sur cette terre. Quand j'ai compris que c'était pour l'éternité, qu'un jour j'avais reçu la vie, et que c'était à moi de décider où aller. Croyez-moi, j'ai choisi le paradis. Là-haut, au paradis, je m'en irai quand sonnera l'heure. Là-haut, au paradis, je rejoindrai Jésus, mon sauveur. Là-haut, au paradis, de ma place, il a payé le prix. Pour qu'un beau jour, je puisse aller avec. Là-haut, au paradis. Là-haut, au paradis, de ma place, il a payé le prix. Pour qu'un beau jour, je puisse aller avec lui. Là-haut, au paradis, là-haut, au paradis.